Mais ce qu'on dit, c'est que à la racine d'un mouvement de reconnaissance, il y a toujours une décision. Et une décision, c'est un mouvement d'empowerment. C'est-à-dire que avant d'être capable de te dire, ouais, maintenant je comprends et je regrette, tiens, je regrette Pascal d'avoir fait ça. Encore faut-il que je me sois un peu calmé, que j'ai retrouvé une forme de lucidité et que j'ai eu cette impulsion de te faire passer ce message. Et tout ça, c'est de l'empowerment. Avant que je te fasse passer le message, c'est une reprise de contrôle sur soi-même. C'est pour ça qu'on dit ça, en fait. On dit les personnes ne sont pas capables de produire des mouvements de reconnaissance tant qu'elles sont déstabilisées. Donc ça va ensemble. Au fur et à mesure que je retrouve du pouvoir sur moi, ou du pouvoir en moi, je retrouve ma capacité à laisser de la place à l'autre dans sa différence et à lui envoyer du coup à opérer des mouvements de reconnaissance vers lui.
C'est ça qui m'a beaucoup plu. C'est vrai que, tu vois, on lit pas mal de livres, et puis souvent, des livres sur la médiation, gestion des conflits, puis souvent, c'est un peu les mêmes choses vues d'un autre angle, etc. Et c'est ça ce qui m'a plu, ce que tu viens de décrire, donc de te focaliser sur ses propres hommes. C'est ça, c'est le relationnel, c'est l'empowerment et la reconnaissance. Et puis, comme tu viens de décrire, l'un qui doit aller avant l'autre, c'est vraiment pour moi une nouvelle manière de voir. Donc, j'avais une certaine approche de transformative, plutôt de la coopération, de la coopération où j'ai été actif dans le passé, surtout la conflict transformation. Mais là, c'est plutôt, ça, d'ailleurs, j'ai revérifié, je me permets aussi d'en parler de ça, c'est le LEDERACT. Donc, moi, j'avais beaucoup appris de LEDERACT. Donc, c'est le Little Book of Conflict Transformation que je peux te recommander aussi. Et j'ai revu, ça fait longtemps que je n'ai pas lu. Il parle aussi de To respond to real life problems in human relationships. Donc, il parle aussi beaucoup de relationnel. Mais ce que j'avais plus tiré de son approche, c'est être non pas comme la transformative, pas être focalisé sur le résultat, mais être focalisé sur le processus. Donc, moi, transformative, jusqu'à avoir lu ce livre de médiation transformative, moi, transformative, c'était focaliser processus. C'est-à-dire que keep the process going, même si ça va mal. Et lui, il parle d'une spirale. C'est normal. Ça va mal dans une séance. C'est normal. On continue. On fixe la prochaine séance. Et ça va aller avec le temps. Il faut. Mais là, cette manière de voir que ça touche surtout voilà, ses propres ombres, son propre comportement qu'on n'aime pas, qu'on se sent isolé, qu'il a d'abord besoin d'empowerment, de reconnaissance. Pour moi, c'est vraiment une nouvelle manière de voir. Ça m'a beaucoup fasciné dans ce livre. Hein.
Tu vois, moi aussi, quand j'ai découvert ça, ça m'a fasciné, hein. C'est pour ça que je suis très, très engagé, très passionné, par cette approche. Nous aussi, hein, en transformative, on parle d'une spirale, hein, la spirale négative et destructrice du conflit, et où effectivement, il y a cette déstabilisation. Les Américains, ils disent weakness, hein, c'est la faiblesse, en fait, hein, la fragilité. Et la fermeture, les Américains, ils disent self-absorption, tu vois. Donc on n'a pas pris un vocable exactement pareil. On l'a traduit par fermeture. Et donc tu as cette spirale de la déstabilisation et de la fermeture, de weakness et self-absorption, qui tourne comme ça. Et justement la manière dans et pour reprendre ce que tu disais, c'est normal. Et il faut pas en avoir peur. Il faut même, je pense qu'on en parlera après quand on parlera des techniques enfin, de la manière d'intervenir du médiateur transformatif, il faut même plonger dedans. Il faut aller se baigner dans cette spirale. Et avec justement la conviction que c'est un passage obligé et que c'est en explorant toutes les manifestations de cette déstabilisation et de cette fermeture que petit à petit, les personnes vont réussir à sortir de cette spirale et inverser la mécanique et la dynamique par des mouvements d'empowerment et de reconnaissance.
Donc, si on n'est pas focalisé sur le résultat et donc éventuellement pas sur les thèmes, est-ce que dans la médiation classique, dans une approche, c'est les cinq phases de médiation, quelque part au début, on fait la collecte des thèmes. Ça, on ne fait pas du tout, en fait.
Non, en fait, on a. D'ailleurs, tu prononçais le mot processus tout à l'heure. Et alors, je comprends qu'effectivement, dans la façon dont ton auteur là l'utilise, c'est de dire avoir confiance dans le processus et donc voilà, ne pas se décourager, et même si ça a l'air de tourner en rond, être confiant dans le fait qu'ils vont finir par s'en sortir et donc fixer la truc suivante. Donc c'est pas, je pense que lui, dans son utilisation du mot processus, il n'y a pas l'utilisation d'un process, d'une méthode. En ça, ça rejoint ce que nous on fait, enfin, ou plutôt qu'on ne fait pas. C'est-à-dire que en transformative, on dit non seulement, tu sais, souvent dans la médiation, on dit les participants sont les maîtres du contenu et ils sont responsables du contenu, du résultat,
Ouais.
etc. Et le médiateur, il s'occupe du processus,
Bah
justement.
justement, contenu, il n'y en a pas. C'est comme ça que j'ai compris.
Ben, le contenu, c'est tout ce dont ils parlent. Donc,
Ouais, ok. Mais
c'est leur
contenu,
mal-être,
non.
c'est leur souffrance, c'est leur détestation, c'est aussi les idées qu'ils peuvent avoir pour sortir de là, c'est les sujets qui les opposent, c'est tout ce qu'ils veulent. Tout ça, c'est le contenu.
Ah, donc les thèmes sont quand même là. On va pas quand même. Je crois qu'ils ont
Alors,
du
justement,
sample
ouais.
de. Vas-y. Ouais.
Exactement, ah ben, forcément, de toute façon, on les invite à une conversation, plutôt, ils nous invitent à une conversation, où on se propose de les soutenir dans une conversation, on va dire. Et donc, dans cette conversation, le principe, c'est que ils parlent de ce qu'ils veulent. C'est leur conversation. Et c'est toujours par rapport à ce souci d'empowerment dont on parlait. C'est-à-dire que l'empowerment, ça commence par prendre des décisions, y compris sur les sujets dont on veut parler. Ça commence même sur prendre la décision de participer ou non à la médiation. Et donc, on considère que le moins on fait de choix à leur place, le mieux c'est. Ou le plus ils ont des opportunités de faire des choix et de prendre des décisions, le mieux c'est parce que ça participe à ce processus d'empowerment. C'est-à-dire que, tu sais, on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. J'ai envie de dire c'est en décidant, même sur des choses minuscules, qu'on redevient capable de prendre des décisions et qu'on reprend du pouvoir sur soi-même. Et donc, je referme la parenthèse. Les thèmes, s'ils veulent lister des thèmes dans leur première prise de parole, ils les listent. Il peut arriver qu'il y en ait un qui arrive et qui dise, ah ben moi, j'ai accepté la médiation parce que il y a ça et ça et ça qui sont des sujets dont j'ai vraiment besoin de parler, etc. Mais nous, on ne les prend pas en note en disant, bon, ok, alors on va parler de ça et puis de ça.
Commençons par ça.
On les laisse faire.
Ouais.
Et on les suit. Ça, c'est un truc, je pense qu'on en reparlera, qui est, comment dire, récurrent dans la transformative, c'est on dit, on ne guide pas les participants, on les suit, on reste dans leur sillage immédiat.
Donc au niveau de la posture, c'est là où c'est pas clair pour moi dans la
Ouais.
vision des choses. Si on prend une médiation classique, le médiateur, la médiatrice, c'est une sorte de. Si c'est un match de foot, c'est une sorte d'arbitre, si on veut, facilitateur, arbitre, qui guide un peu le truc, etc. Même qu'il ne décide pas, hein, sur le fond. Dans la transformative, est-ce qu'on est plutôt, je sais pas, spectateur qui part, de temps en temps on applaudit et ça stimule les gens, ou on est
Alors,
quoi
on
en fait?
n'applaudit pas, hein, parce que justement, applaudir ou encourager ou féliciter,
Non. Ouais.
pour nous, c'est considéré comme de la posture haute, c'est-à-dire que c'est se mettre au-dessus des parties en leur distribuant des bons et des mauvais points, tu vois. Et donc, c'est contre-productif par rapport à l'empowerment. Donc, on n'applaudit pas. Spectateur, non, parce qu'on est
Au
actif.
départ, on dit, on ne
Mais.
conforte pas en disant, ah, je vois que, bah, je vois que vous avez pris une décision importante, je vous félicite. Non.
Ah, on peut dire, vous venez de prendre une décision qui semble importante pour vous, etc. Mais on ne dit pas je vous félicite. Parce que je vous félicite, c'est comme si j'étais un peu ton papa ou ton maître d'école. Et donc je t'infantilise quand je te dis je te félicite, tu vois. En transformative, en tout cas, hein. Je ne dis pas qu'il faut jamais féliciter les gens. Hein. Mais je reviens sur ta notion de spectateur, c'est très intéressant parce que, effectivement, y a un côté spectateur dans le sens où on ne prend pas part à la conversation, au sens où on n'apporte rien de nouveau. Okay? Quand on intervient qu'avec des choses que les personnes ont apportées. Okay? On ne vient pas avec une idée à soi, avec une proposition, ni même avec une question pour satisfaire notre curiosité. Et encore moins avec une question pour forcer la reconnaissance ou forcer l'expression d'un ressenti ou d'un besoin. Mais ça ne veut pas dire qu'on est silencieux. Et donc, on est spectateur au sens de on est en observation, mais ça, je pense que c'est le cas de tous les médiateurs. On a l'attention focalisée sur ce qui se passe dans l'instant présent. et c'est ce que les personnes expriment individuellement et à travers leur interaction. Et donc, on est spectateur attentif de ça. Mais en revanche, on intervient, on rebondit. Comment te dire? Non pas comme une partie prenante à la conversation, mais plutôt comme, on va prendre des métaphores, comme un miroir, comme un projecteur, comme une caisse de résonance ou une chambre d'écho, tu vois. C'est-à-dire qu'on fait avec le matériel que les gens nous donnent et on leur donne à voir ce qu'ils cherchent à exprimer. OK, on le fait avec des techniques qu'on peut détailler rapidement si tu veux, mais c'est vraiment ça le truc qui est fondamental, c'est que, en fait, dans cette histoire de la transformation de l'interaction dont on parlait, de sortir de cette spirale, ce qui va être à la base, c'est un mouvement d'empowerment qui est la prise de conscience de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que je me suis écarté, entre guillemets, de mon équilibre d'être humain tel que j'ai envie d'être un être humain. Okay, je suis pas en plein contrôle, en pleine possession de mes moyens, et je me comporte vis-à-vis de l'autre d'une manière qui me plaît pas ou qui me répugne, mais ou qui peut-être va ne pas me plaire ou ne pas me répugner. Mais au moment où je le fais, je suis emporté par ça et je me rends pas compte de ça. Ça, tous les médiateurs l'expérimentent. Les gens, ils savent pas ce qu'ils disent quand ils sont au cœur de ce chaos conflictuel, et ils se rendent pas compte. Et donc, de leur donner à voir à chacun l'état dans lequel ils sont et ce qu'ils expriment, comme si tu te regardes dans un miroir et que tu vois que tu t'es écorché ou tu as quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, mais ça augmente les chances qu'ils prennent conscience de ce qu'ils sont en train d'exprimer, de l'image qu'ils envoient, du message qu'ils envoient, et qu'ils décident si oui ou non ça leur convient. Tu vois, et qui du coup ils disent tu vois, et qui continuent dans le même registre, ou même qui confirment, qui développent, ou alors qui disent voilà, ouais, c'est moi ça, c'est ça que je viens d'envoyer, c'est cette violence-là avec laquelle je parle.
Et donc,
Et
c'est toi qui fais le miroir.
alors c'est la technique centrale en fait qu'on utilise, l'intervention centrale qu'on utilise en transformative, en particulier quand ça va mal, quand les gens justement montrent beaucoup de déstabilisation et de fermeture l'un envers l'autre, c'est ce qu'on appelle le reflet. Donc on reflète ce que la personne envoie avec ses mots, avec sa voix et avec son corps, avec la même intensité émotionnelle, enfin pas forcément exactement la même, mais en tout cas on rapatrie une partie de cette intensité. Et c'est ça qui est très puissant, si tu veux. C'est-à-dire que on n'essaye pas de paraphraser, d'interpréter, d'apporter une quelconque valeur ajoutée à ce qu'on a entendu et qu'on croit avoir compris.
En fait, on reformule pas, hein, c'est ce que j'avais compris.
C'est pas une reformulation au sens de j'utilise mes propres mots, j'en fais une
Je comprends mieux
synthèse.
que toi, Fien.
Voilà, et je te dis avec mes mots mieux choisis et plus intelligents, et parfois aussi un peu du coup, un peu adouci, un peu édulcoré, ce que toi, tu as exprimé avec tes tripes et avec force. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, je te restitue, je te montre, je te donne à voir ce que tu viens de nous montrer, et ce que tu viens de montrer notamment à ton interlocuteur, avec les mêmes mots, les mêmes expressions clés et la même force, dans la pleine force de ce que tu as exprimé. Et comme ça, tu peux t'en saisir et tu vois ce que tu en fais. Soit ça te va, soit ça ne te va pas. OK? Et ça c'est l'impact du reflet sur la personne à qui on le fait. Mais bien sûr, ça donne aussi, ça a d'autres intérêts vis-à-vis de l'autre personne. C'est que elle entend une deuxième fois ce qui a été dit, peut-être venant d'une personne qu'elle n'est pas en train de détester. Et donc, elle l'entend peut-être différemment. Et en plus, ça lui donne le temps d'être peut-être moins réactive à cette personne-là et de décider comment elle veut réagir. Ça introduit une forme de temporisation. Donc, dans ce sens, on n'est pas spectateur, on intervient dans la conversation et on a une influence qui est très forte sur cette conversation, mais en utilisant uniquement le matériel que les participants nous ont donné, en fait.
Et donc, ça veut dire qu'on ne filtre pas, on ne reformule pas, ça, on n'édulcore pas. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes, justement, s'il y a beaucoup de force, s'il y a des mots durs, s'il y a des messages tu, au lieu de parler en jeu, en parlant en tu, ça on laisse, ça je répète même, donc je renforce.
Mais si tu dis à ton interlocuteur, voilà, t'es Pascal, et tu dis, Olivier, t'es vraiment un
Vas-y, lâche-toi.
salopard, t'es une ordure d'avoir fait ça, tu m'as trahi, et en plus je me suis senti humilié, etc. Ben, je vais te faire un reflet en tant que médiateur. Et je vais te dire, Pascal, vous êtes senti trahi et humilié par Olivier, et vous considérez aujourd'hui que pour vous c'est une ordure, c'est un salopard. Je vais utiliser vraiment les mêmes trucs. Et si tu as commencé à t'agiter sur ta chaise en le faisant, et même à t'avancer vers l'autre, tu vois, pour lui dire, quand je vais te faire le reflet, je
La
vais
même
m'agiter un
chose.
peu sur ma chaise et je vais m'avancer vers toi. Je vais te montrer. Alors, il ne faut pas que ce soit caricatural, hein, ce n'est pas un truc, tu vois, il ne faut
Non,
pas
bien
être
sûr, mais ouais.
un mauvais acteur. Mais si tu veux, c'est une affaire plutôt d'empathie, c'est-à-dire que comme tu es très, très branché sur la personne qui parle, si tu sens fortement par quoi elle est traversée, et que tu es convaincu parce que tu as été formé en approche transformative et que ça te convient, que c'est extrêmement important de laisser de la place à tous les signes de déstabilisation et de fermeture qu'elle peut montrer, eh bien, tu vas te charger de toute cette déstabilisation et de cette fermeture, salopard, ordure, trahi, humilié, il y a là-dedans de la fermeture et de la déstabilisation, et tu vas le recracher, tu vois, et tu vas le faire sans même penser qu'il faut que tu le fasses. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'on cherche à faire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait dans la spontanéité. Et comme c'est spontané, que c'est sincère et que c'est dans un mouvement d'empathie, ça n'est pas vécu comme, par la personne comme une espèce d'imitation, tu vois, de bas étage de ce qu'elle est en train de montrer.
Oh, ok. Non,
Là, je te fatigue pas trop.
non, du tout. Non, non, c'est passionnant, vraiment. Du coup, je me pose aussi la question sur le processus. Enfin, je pense avoir compris qu'il n'y en a pas. Enfin, c'est pas, on n'a pas une roue de Futa, qu'on n'a pas 5 phases de médiation.
Non.
On a quoi? Il n'y a rien. Il n'y a pas de plan de match, quoi.
Non, en revanche, c'est bien que tu évoques ces trucs-là parce que pour moi, il faut pas, quand on est médiateur, qu'on a été formé avec ces outils-là et qu'on découvre la transformative et que ça nous plaît, il faut pas mettre à la poubelle ces outils-là. Mais parce que c'est des outils qui sont intelligents, c'est des modèles qui ont été élaborés par rapport à l'observation d'une réalité. En revanche, ça peut inviter à prendre du recul par rapport à ces outils-là, au sens de dire, OK, ça décrit ces différentes étapes ou les différentes positions dans la roue de Futak, ça décrit des états dans lesquels mes participants peuvent se trouver à un moment ou à un autre de leur interaction, de leur conversation. Mais ça ne doit pas devenir, c'est là que en médiateur transformatif, on lève la main, on dit non, non, surtout pas ça, ça ne doit pas devenir un plan de match, tu vois, un programme que, en tant que médiateur, je suis, entre guillemets, impatient de parcourir dans le bon ordre et jusqu'au bout. Parce que je vais être obsédé par ça et je vais être obsédé par mon processus et par le fait d'emmener mes participants là-dedans.
Ça devient directif.
En revanche, de l'avoir en tête et de se dire, tiens, là, quand l'autre, il se traite d'ordure, de salaud, etc. Évidemment, ils sont dans la partie gauche de la roue, voilà, et ils sont en train de parler aussi du passé, etc., et de régler des vieux comptes et tout ça. Ils sont dans cette partie chaotique, et de le voir, de se rendre compte qu'à un moment où des personnes commencent à accumuler des mouvements de reconnaissance, mais qui vont jusqu'à même s'excuser en pleurant, tu vois, demander pardon. Dire qu'ils sont soulagés, que tu vois, que d'avoir mis les choses au clair et tout ça, bah voilà, on sait qu'on est en train de se balader du côté de la catharsis, en fait, tu vois, en haut de la roue de Futak. Et puis, bah, évidemment, quand les gens commencent à évoquer des solutions possibles, se projeter dans l'avenir, essayer de co-construire quelque chose, bah, on sait qu'ils sont à droite. Mais c'est eux qui décident où ils vont et quand ils y vont. Et moi, je les suis là-dedans. Et d'ailleurs, n'importe quel médiateur, y compris muni de sa route Futaque ou de son process à 5 étapes, n'importe quel médiateur expérimenté sait très bien que jamais, jamais de la vie, il n'arrive à conduire ses participants de manière linéaire et régulière et douce à travers ce processus sans retour en arrière. Tu crois que tu es là, mais en fait, il y a tout d'un coup dans la conversation un machin qui pète à la figure et tu retrouves les gens dans le chaos. Et si jamais ça ne se produit pas, si jamais ça se produit pas, en tout cas, c'est mon regard de transformatif qui dit ça, si ces retours en arrière ne se produisent pas, c'est que probablement on a peut-être été un peu trop directif et que, on n'a pas laissé de la place pour que ça se produise. Le problème, c'est que si ça ne se produit pas en séance, ça risque de se produire, après, en fait. Voilà,
De
je sais
toute façon, ces processus, quand on est fraîchement diplômé, formé à la médiation, on a besoin de s'accrocher quelque part, et puis c'est utile. Moi, au début, j'avais même ma petite feuille devant moi, tu vois, les 5 phases.
pas. Oui.
Je disais,
Et
j'espère qu'ils ne
après,
voient pas ce que j'ai sur ma feuille.
c'est ça. Et après, tu as pris de la
Mais
distance par rapport à ça, forcément, quoi.
après, voilà, parfois les étapes, ça saute un petit peu, ou ça va un peu dans un autre ordre, ou peut-être pas du tout. Je vais peut-être prendre l'habitude d'être plus transformative.
Peut-être, mais tu vois, je ne
Bon.
voudrais pas qu'on croie que parce que je suis transformatif, je fais mon malin à dire jeter à la poubelle tous les trucs que vous avez appris. C'est juste prenez de la distance. Tu vois, c'est comme avec la communication non violente. Donc, il y a des médiateurs qui ont ça comme cadre de référence. Et donc, ce qui va être vraiment important pour eux dans leur processus, c'est d'amener les participants à verbaliser leurs émotions, leurs ressentis, à exprimer des besoins et à formuler des demandes les uns envers les autres pour être conforme un peu à, voilà, au process ou enfin, en tout cas voilà, aux fondamentaux de la communication non violente. Super, les besoins, l'expression des ressentis, l'expression des besoins, la formulation de demandes, tout ça. En tant que transformatif, je trouve ça essentiel aussi. Hein. Exprimer, verbaliser une émotion, c'est déjà un mouvement d'empowerment. C'est être capable de le faire, c'est prendre du pouvoir sur soi, plutôt que de se laisser dominer par l'émotion. Exprimer un besoin, c'est pareil. Formuler une demande, c'est pareil. En revanche, ce qui va me déranger, c'est si le médiateur, à un moment donné, prend l'initiative de poser la question et je te dis par exemple, bah, Pascal, est-ce que tu peux me dire ce que tu as ressenti quand Olivier il t'a fait ça ou quand il s'est produit ça? Ou est-ce que tu peux dire maintenant par quelles émotions tu es traversé? Je caricature aussi. Hein. Ou, mais au fait, Pascal, quel est ton besoin? Ou qu'est-ce que tu as besoin de quoi? C'est peut-être pas le moment pour toi ni d'exprimer ton émotion, ni de formuler un besoin. Je risque de te sidérer un peu quand je vais te poser cette question-là et de t'écarter de ce dont tu as vraiment envie de parler à ce moment-là. Donc c'est toujours la même idée. Et si tu veux, en transformative, on dit bah, quand l'émotion elle émerge, bien évidemment que c'est du matériel, en particulier l'émotion négative qui était un signe de déstabilisation, hein, c'est un matériau qu'il faut se saisir, et il faut lui laisser de la place et il faut offrir la possibilité à la personne. Par exemple, en lui faisant un reflet, d'en dire davantage, si elle le souhaite, y compris pour des besoins ou des demandes. Mais jamais c'est moi qui vais aller à la pêche de ça. Je vais être attentif à l'émergence de ça, et quand ça émerge, je soutiens. Toujours cette idée d'être dans le sillage, mais de ne jamais précéder. Suivre, mais non guider, en fait.
Moi, j'ai vu justement cette manière d'approcher. J'imagine peut-être, ou peut-être même pas, mais je me disais peut-être ça, il faut compter un peu plus de temps parce qu'il y a ces besoins d'empowerment, de reconnaissance avant pour passer au reste, au fond des choses, aux décisions. Donc, je ne sais pas s'il faut compter plus de temps pour une médiation transformative, mais là où je veux en venir, c'est que typiquement, avec le temps, il y a parfois des gens qui sont pressés dans le business, ou qu'une fois j'avais un divorce, enfin une séparation plutôt très particulière, parce que l'une des deux parties devait voyager dans l'après-midi, elle allait partir définitivement dans un autre pays, puis elle voulait encore faire le divorce la matinée en Suisse. Il fallait juste signer et envoyer. Et donc, en gros, la demande, c'est on a 3 heures, et puis il faut. Donc, il y avait une contrainte de temps.
Une pression sur le temps.
Et donc, j'étais plus directif que d'habitude encore parce qu'il fallait, si tu as fait une séparation, il y a ça à régler. Donc, voilà. Et ça m'amène à dire que si tu prends un peu tout le contexte en compte, je prends toujours l'exemple de tournevis. Si tu as une vis numéro 3, tu prends le tournevis 3, tu ne prends pas le 1 ou le 5. Et donc, pour un conflit, moi, j'ai un peu tendance à dire, selon le conflit, les contraintes, la demande des parties, tu prends une approche ou une autre. Tu partages ça ou tu dirais que la
Écoute,
transformative, c'est... Ouais.
non, je partage pas mal ça. Ça mérite probablement des précisions, des commentaires, mais ce qui est
Parce
sûr,
que
c'est que.
aussi, juste par dernière
Ouais.
chose, c'est que justement, Florence Tudor, où j'ai eu une conférence dernièrement, elle parlait de la médiation transformative, elle disait c'est super bien appliqué, utilisable pour les hauts conflits familiaux, donc les conflits très escaladés. Alors, dans le livre, la médiation transformative, ça parle plutôt de business, dans l'entreprise. Ils ont l'exemple de Harris and Williams, tu vois, les deux
Ouais,
associés.
ouais.
Voilà. Est-ce que c'est un
Écoute,
passe-partout?
moi je fais, je te disais, hein, je fais en entreprise, je fais dans les organisations générales, je fais dans des associations, notamment des ONG, et je fais dans la famille. Mais j'ai aussi, comme je fais des groupes d'analyse de pratique et beaucoup de formations, des groupes d'entraînement, j'ai pas mal de témoignages de médiateurs, qui interviennent dans d'autres contextes. Et notamment des avocats médiateurs et des gens qui travaillent, y compris, tu vois, sur des dossiers très business, a priori dont on pourrait penser que c'est un peu désincarné. Tu vois, les personnes, elles sont pas impliquées individuellement complètement dedans, elles sont, des gens qui sont les représentants d'une institution ou d'une entreprise pour négocier des histoires de gros sous sur des affaires, quoi. Et donc, tu pourrais imaginer que la déstabilisation et la fermeture, ce cercle vicieux, là, cette spirale, les gens qui sont traversés par des émotions fortes, etc., soient moins présents. Mais en fait, ce que moi je constate, notamment dans les organisations, mais ce que constatent ces personnes-là qui travaillent dans des contextes dont on pourrait penser qu'ils sont un peu plus débarrassés de cette dimension humaine. En fait, disent que, à un moment ou à un autre, il y a toujours des sujets et un vécu individuel des personnes, même si elles sont les représentantes de quelque chose et qu'elles ne sont pas directement impliquées. Il y a des histoires d'image, il y a des histoires de sauver la face, il y a des histoires de vouloir dominer ou ne pas être dominé, il y a des vexations, il y a tout un tas de choses comme ça, qui font que les personnes sont quand même impliquées fortement dans le conflit. Et donc, pour continuer de répondre à ta question, parce qu'elle est quand même très vaste, et puis je vois que le temps tourne, tu vas commencer à vouloir boucler, je pense que ça s'applique effectivement, enfin, moi en tout cas, j'en vois toute la puissance quand effectivement les personnes sont aux prises avec ces effets dévastateurs du conflit sur leur individu et sur leur capacité sur leur comportement et sur leur capacité de se connecter à l'autre. Donc, les conflits à haute intensité, et c'est vrai que j'ai beaucoup de collègues qui travaillent aussi dans des contextes de conflits internationaux, des trucs de guerre, de post-guerre, de génocide, des choses très, très difficiles et tout ça. Beaucoup aussi en familial, et c'est vrai qu'en familial, c'est là que souvent il y a les vécus les plus douloureux, etc. Et donc là, on voit la pleine puissance de cette approche et de cette posture, parce que justement, on laisse de la place à tout ça, et que ça permet de vider les abcès, d'évacuer les choses, et petit à petit, aux personnes de retrouver du pouvoir sur elles-mêmes et d'avancer. Voilà. Néanmoins, cette phase de chaos, elle existe dans tous les contextes, y compris dans des choses un peu plus légères. Je rouvre une parenthèse dans la parenthèse, c'est que dans le business, comme tu dis, ou dans les organisations, bien souvent, on est sollicité dans des situations où, même si on est au travail, les gens vivent profondément et douloureusement des problèmes interactionnels avec d'autres. Et donc, c'est sur des sujets professionnels ou des interactions sur le lieu de travail, mais c'est tout leur être et toute leur humanité qui est bousculée en fait dans ces trucs-là, dans les histoires de harcèlement, dans les histoires voilà, quand les gens sont à la limite du burn-out, etc., enfin, c'est des sujets que tu connais bien, d'après ce que j'ai compris. On a une très forte intensité émotionnelle potentiellement dans ces médiations-là, tu le sais. Et je vois que je suis un peu à côté de ta question, je reprends encore 2 minutes.
Non, non, vas-y.
Sur la partie, selon les contextes, on adapte sa façon de faire, selon le temps dont on dispose et tout ça. Alors d'abord, sur le temps, contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si on a tendance à laisser un peu tourner les gens en rond, mais en fait, on ne les laisse pas tourner en rond, on leur montre par nos reflets et nos résumés qu'ils tournent en rond. Et on pourrait penser que la transformative prend plus de temps qu'un autre process, mais bien souvent, c'est le contraire. Et même quand on a l'impression que ça prend plus de temps, on l'assume quand on a la liberté, la possibilité de l'assumer. Au sens où on pense que de toute façon, il faut en passer par là, et que même si on faisait autrement et qu'on avait l'impression d'aller plus vite, on réglerait que la partie émergée de l'iceberg, en fait, tu vois. Après, on n'a pas toujours les marges de manœuvre et la liberté en tant que médiateur de faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on le veut. On opère dans un champ de contraintes qui est plus ou moins fort. Et la pression sur le temps, typiquement dans les groupes d'analyse de pratique, tout le monde m'en parle. J'ai des groupes d'analyse de pratique centrés sur la transformative. C'est un des sujets qui revient le plus souvent. C'est-à-dire, compte tenu des contraintes dans lesquelles j'interviens, notamment dans tel dispositif avec tel centre de médiation où les gens, ils auront que 4 heures et c'est tout. Et on les reverra plus derrière, c'est sûr. C'est difficile de garder sa posture transformative quand il reste plus qu'une demi-heure, quoi, tu vois? Voilà. Ensuite, l'autre truc que j'avais envie de dire,
Là, c'est là que tu peux prouver ta sénitude. Hein.
ouais, c'est ça. Exactement. Et d'ailleurs, tu touches un point qu'on n'aura pas forcément le temps d'aborder, mais que ce qui est fondamental dans la pratique de la transformative, c'est sa propre zénitude. C'est-à-dire d'être capable d'offrir à ses participants sa propre stabilité, son propre calme et sa propre ouverture. Parce que dès que tu commences à être toi-même déstabilisé, tu commences à
Ah.
perdre ta capacité d'empathie et d'ouverture, et donc tu donnes un contre-exemple de ce que tu attends d'eux, en fait.
Tu
Tu vois?
infectes le système.
Exactement. Ou plutôt au lieu au contraire, de lui donner une contagion positive avec ton propre calme et ta propre ouverture. Et je reviens sur la question du choix des méthodes ou des postures et l'hybridation, parce que c'est un sujet qui revient souvent dans les discussions qu'on peut avoir. C'est est-ce que je peux tantôt faire l'un, tantôt faire l'autre, et puis même en cours de séance, switcher d'un mode à l'autre. Moi, je suis plutôt un puriste, c'est-à-dire, si tu choisis de faire la transformative, c'est parce que tu as des convictions. Et donc, tu ne te laisses pas rattraper par tes démons, tes pulsions directives, parce que tu as peur de ne pas être efficace, etc. Tu sais que c'est eux qui doivent faire le job. Tu continues de faire ce que tu sais que tu dois faire pour les soutenir là-dedans. Point barre. Après, tout le monde n'est pas de cet avis-là. Et surtout, moi, je vais le nuancer, c'est-à-dire que tout dépend de ce qu'on appelle la médiation, c'est-à-dire quand est-ce que commence et quand est-ce que s'arrête ton job. Moi qui viens en plus d'un métier qui était plus de la facilitation, hein, en entreprise, où je faisais dialoguer les gens, mais d'une manière beaucoup plus directive, beaucoup plus organisée, beaucoup plus orchestrée, il m'arrive encore d'intervenir dans des contextes où peut-être qu'au début du processus, je vais avoir une casquette plutôt de médiateur et là, je vais être transformatif. Parce que les gens ont besoin de cracher ce qu'ils ont à cracher, qu'ils ont besoin de produire de l'empowerment et de la reconnaissance. Et quand ils seront installés, puisque tu parlais de la route Futak, sur la partie droite de la route Futak, et qu'ils auront fini de faire des allers-retours, et qu'ils seront vraiment installés dans une dynamique constructive, là, moi, je n'ai pas de problème à changer de casquette. Mais pour moi, c'est plus vraiment de la médiation. J'appelle ça de la facilitation. Et je peux les accompagner dans un processus créatif de co-construction, etc., où je vais prendre le stylo, où je vais écrire à leur place, etc. Parce que je considère qu'ils ont retrouvé suffisamment de pouvoir sur eux-mêmes et d'ouverture l'un à l'autre pour que ce soit plus un souci de déléguer à quelqu'un d'autre ce travail de contrôle du processus, tu vois, et de la méthode. Voilà. Et donc, moi, j'ai des tas de contextes d'intervention qui sont hybrides, c'est-à-dire dans lesquels il y a des lieux et des moments dans le processus dans lequel je vais être transformatif et des lieux et des moments où je vais être un facilitateur. Bon, il nous reste que 5 minutes, donc je te rends la main, je suis trop bavard.
Ouais, écoute, non, c'est super, bah, c'est pour ça que je t'ai invité. Bah, de toute façon, je crois gentiment, on a un peu fait le tour. C'est que, écoute, c'est vraiment super intéressant. Comme j'ai dit, pour moi, c'est vraiment une nouvelle manière de voir certaines choses. Et évidemment, là, on pourrait faire des heures et des heures, hein, parce que typiquement, tu parlais de certains outils.
On les a pas, à part le reflet, on les a pas abordés, ouais.
Voilà, moi j'ai aussi noté, il y a aussi le fait de reconnaître des signes de déstabilisation ou de fermeture. Voilà, on pourrait faire, d'ailleurs, tu fais des formations, justement, c'est là où je voulais en venir, c'est que certaines choses, je pense qu'on va plutôt les approfondir en pratique dans une formation. Donc, j'espère qu'on y arrivera, mais on va essayer
Avec
de mettre
plaisir.
quelque chose en place pour la, je sais pas,
Avec
première
plaisir.
moitié l'année prochaine, 2024.
Ouais. Mais en attendant, si les gens veulent, bah, je pense qu'on mettra un lien. Ils pourront voir éventuellement les formations que j'offre. Je
Voilà,
reviens
on
juste
peut mettre.
pour repérer les signes de déstabilisation et de fermeture. On en a beaucoup parlé, en fait, hein, parce que c'est les signes de déstabilisation, c'est quand la personne est confuse, c'est quand elle est dominée par des émotions négatives, quand
C'est vrai.
voilà. Et les signes de fermeture, c'est quand elle fait des procès d'intention, quand elle insulte l'autre, ou quand elle arrête de la regarder. Tu vois qu'elle se met à regarder le médiateur plutôt que de regarder la personne en face. Tout ça, c'est des signes de fermeture. Et c'est là-dessus qu'on se précipite, et c'est là-dessus qu'on fait des reflets, comme je t'en faisais un peu la démonstration tout à l'heure, en reprenant les insultes qu'il pouvait y avoir dans le propos du protagoniste. Ouais.
C'est ça.
Excuse-moi, je
Là,
rouvre.
finalement, on a touché beaucoup de choses.
Ouais. On n'a pas parlé du
Allez.
revue mail, qui est une autre technique, mais là, je n'ai pas le temps de le développer, donc ce sera pour une autre fois.
On trouvera le temps.
Et
Et puis voilà, d'ici là, donc ça sera une formation plutôt en Suisse, mais tu fais beaucoup aussi en France et ailleurs, je crois. On va mettre un lien. Si tu m'envoies le lien, je mets dans le descriptif de la vidéo.
ouais.
Il y a aussi les livres, bien sûr, hein, que tu as traduit avec ta fille. Médiation
Ouais.
transformative. On
Ouais.
n'a pas
Et
parlé des auteurs, je suis un peu désolé pour eux, mais ben voilà, on
ouais,
a
bah,
parlé
écoute,
de
je les
leurs
offre bien.
idées.
Je ne vais pas en parler. Là, je n'ai pas le temps. Mais si vous voulez plus d'infos là-dessus, il y a aussi le site de l'Institut. L'Institute for the Study of Conflict Transformation, donc l'Institut pour l'étude de la transformation du conflit, sur lequel je te donnerai un lien. C'est en anglais. Et là, on y parle un petit peu plus des auteurs. C'est pas un site extrêmement sexy, hein, visuellement, mais voilà, c'est un think tank, c'est une association américaine. Et je te me donnerai aussi, parce que je suis en train de le mettre en place, l'adresse d'un site pour ce qu'on appelle le réseau francophone pour une approche transformative du conflit. C'est un
Ah,
petit
super.
collectif qui s'est constitué initialement autour de notre formateur et mentor commun, qui est un Québécois, John Peter, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui a pris un peu son essor. Et il y a là-dedans des Québécois, des Français, des Belges, et dans le groupe d'animation, on va dire, de pilotage. On n'a pas encore de Suisse, donc peut-être que ça viendra. Mais l'idée, c'est justement d'être un relais de l'Institut américain en langue française dans le monde francophone, en fait.
Ah, super, ouais.
Donc, on est avide d'avoir des Suisses, d'avoir des Africains, d'avoir des gens qui parlent le français et qui s'intéressent à ça en français.
Bah, tu peux me compter dans les membres, je suis
Je vais
suffisamment
t'envoyer un
convaincu et
lien tout de suite.
facile.
Je vais t'envoyer un lien tout de suite. Voilà, on propose des
Super.
animations justement pour rester en lien, pour animer la communauté. On propose des animations et aussi des actions de professionnalisation.
Ouais, il faut regrouper les gens, c'est.
Voilà.
Super. Écoute, merci beaucoup.
Merci à toi, c'était un grand plaisir, Pascal.
C'était enrichissant. On reste en contact et puis on aura d'autres choses à faire ensemble sans doute. Et
Avec grand plaisir.
puis j'espère une fois en live.
Ouais, certainement.
Allez.
Si je viens chez toi ou si tu viens en région parisienne. Ouais.
Merci beaucoup, Olivier. À très
Merci à
bientôt.
toi. À bientôt.
Ciao.
Bye
Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne, aimez le podcast ou laissez un commentaire, cela nous aide. Merci.